direct de la Maison de la Radio avec Benjamin Hu à la réalisation, Élise Leu à la technique, Bruno Barada, Oriane Delacroix et Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez, Philomène Villard et Marceau Vassy à la préparation. Bonjour à tous. Retour aujourd'hui de la grande table en format XXL, culture, info et idées, midi 13h30. L'horaire, vous le connaissez, il n'a pas changé. Aujourd'hui, l'enfance, point de départ de notre manière d'habiter le monde à 80 ans exactement. Il revient sur des souvenirs heureux, d'autres moins, dans Chansons bretonnes suivies de L'enfant et la guerre. Prix Nobel de littérature, auteur du Procès verbal, son premier roman, en 63, de Désert, Alma, Bitna, Jean-Marie Gustave Leclésio est notre première invitée. Après le journal de Thomas Cluzel, violence policière, pandémie, de la valeur de la vie à la vie à tout prix, ce sera l'anthropologue Didier Fassin qui nous rejoindra dans la seconde partie de la Grande Table. Bienvenue à tous.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio.
Bonjour Olivia.
Bonjour, j'ai avec moi ce livre paru juste avant le confinement, mais ça y est, déconfiné lui aussi en librairie, Chansons bretonnes, suivi de L'enfant et la guerre. Un livre très personnel, un livre où vous revenez sur des souvenirs de votre enfance, breton tout d'abord, et puis plutôt du côté de Nice, souvenirs de la guerre. Pourquoi avoir rapproché dans ce livre, Jean-Marie Gustave Leclésio, voire associé dans un même ouvrage ces deux souvenirs, breton et vos premiers souvenirs de la guerre, d'autant que les premiers sont plutôt doux, nostalgiques, et les seconds plutôt douloureux, traumatisants par instant.
Oui, j'ai eu envie en fait d'écrire la mémoire d'une époque où, enfin de commencer par une époque où je parlais, où donc j'avais un langage structuré, et ensuite je me suis pris au jeu et j'ai eu envie de parler d'une époque où je ne connaissais pas le langage, où je ne parlais pas. Et qu'est-ce que c'est que la mémoire quand on ne parle pas ? Donc, je suis parti d'une mémoire d'enfant et je suis allé à une mémoire presque de nourrisson, de quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer.
Vous êtes un écrivain du déracinement, vous posez l'encre cette fois, hein, vraiment, en Bretagne, où vous avez passé une partie de votre enfance, les vacances surtout. Sainte-Marine, c'est le village d'été, et vous renouez avec ces heures légères, ces chemins que l'on prend à pied ou à vélo, ces parties de plage, notamment celles avec deux jeunes filles du coin qui opposaient les Parisiens que vous étiez avec les Bretonnes, les crêpes épaisses que vous dévoriez au goûter, les souvenirs de pêche ou de bal dans le parc du château d'une vieille marquise. Il y a quelque chose de l'ordre du paradis perdu hein, dans ces lignes, du temps retrouvé aussi, hein, de l'ordre du familier familial, comme vous l'écrivez en invoquant ce fil invisible et solide qui vous reliait à ce pays. Ce fil, c'est un fil nostalgique pour vous ?
Oui, nostalgie. J'aime pas trop le mot de nostalgie parce que ça a quelque chose d'un petit peu, complaisant. Quand on est dans la nostalgie, on entretient une sorte de plaisir-douleur. On fait naître des souvenirs heureux et puis en même temps avec un peu d'amertume. Je préférais l'idée de rêver à ce qu'a été cette enfance durant laquelle je me suis senti libre. Je me suis senti entièrement libre de mes mouvements, de mes rêves, de mes pensées. Et ça, c'était un don de la Bretagne, parce que la Bretagne, du temps de mon enfance, c'était un pays vraiment très différent de tout le reste de la France. C'était un pays qui avait une force poétique, une création dans sa nature, une beauté absolument époustouflante. Enfin, donc tous ces sentiments, toutes ces émotions m'ont donné le goût de la mémoire, alors que normalement l'enfance n'est pas toujours une période heureuse. Cette période-là, et peut-être parce que comme vous le dites, c'était une période de vacances, ça a été un peu comme les quatre années de grandes vacances dont parle Radiguet.
C'est-à-dire que cette mémoire, est-ce que vous lui faites confiance ? Est-ce que vous la pensez fidèle ? Ou est-ce que vous ne pensez pas qu'elle enchante ou réenchante aussi un peu cette région ? On a l'impression que si vous alliez aujourd'hui en Bretagne, vous seriez déçu parce que le pays n'aurait pas la même saveur, le même parfum, le même degré de chaleur aussi hein, que celui que vous avez ressenti peut-être à l'époque et dont vous vous souvenez aujourd'hui.
Oui, enfin, je retourne en Bretagne. J'y vais très souvent. Je passe des mois en Bretagne. Et s'il n'y avait pas eu la période de confinement, je crois que j'aurais été en Bretagne en ce moment. Mais donc, c'est pour moi, c'est un pays qui n'a pas été trahi, qui ne ment pas. Il est toujours très vrai, très authentique. La seule chose qui a disparu en Bretagne et que je regrette et pour laquelle j'ai un peu de nostalgie, c'est la musique de la langue bretonne. Tout le reste est là. Les paysages sont là. Les gens ont la même nature, à la fois assez sévère et généreuse. Et les émotions et les sentiments et les sensations qu'on a en Bretagne aujourd'hui ne sont pas différents de ceux de mon enfance, sauf l'absence de la langue bretonne. Et cette absence-là me frappe assez cruellement. Et je crois que j'ai eu envie d'écrire ça parce que je me souvenais d'un pays où on parlait une langue. Et je retourne, et dans ce pays, on ne connaît plus cette langue. Et quand j'essaye de la parler, on ne me comprend pas. Donc c'est peut-être la partie un peu douce amère de ces souvenirs.
Mais vous dites, à part la langue, rien n'a changé. Mais ce n'est pas ce que vous écrivez. Hein. Vous racontez aussi que Sainte-Marie n'est plus le Sainte-Marine que vous avez connu à l'époque. En tout cas, n'est plus le village d'été que vous avez connu enfant. Qu'entre-temps, des infrastructures ont été construites, que ce soit le pont de Cornouailles, les ronds-points, les portiques. Que la crise de la pêche dans les années 80 est aussi passée par là. Que la modernité a, d'une certaine manière, remplacé la ruralité avec tout ce qui a changé, ces espaces sauvages qui ont diminué entre les villages, les mots, les affiches publicitaires, les panneaux annonçant les supermarchés qui se sont ajoutés au coin des routes et des rocades. Vous racontez aussi ce paysage perdu. Hein.
Oui, et les vélos qui sont devenus pratiquement inexistants en Bretagne, sauf quand il y a une course de vélo. Mais on ne voit plus tous ces gens qui pédalaient le long des routes, ça c'est fini. Bon, ben le monde a évolué, on ne peut pas figer le monde dans une espèce d'idéal de bande dessinée, ça serait complètement erroné. Et ce qui a changé aussi, c'est que la Bretagne, qui était un pays très pauvre, est devenue un pays prospère. Donc c'est un bon changement, il y a des bons et des mauvais changements. Mais l'essentiel de la Bretagne qui est composé par les gens, par l'âme des Bretons eux-mêmes, ça n'a pas changé. Ce sont des gens toujours très généreux, ce sont des gens assez taciturnes au premier abord, mais qui ont une capacité poétique tout à fait étonnante. Quand vous parlez avec un agriculteur et qu'il vous décrit le son de la pluie qui cascade dans la lande, ça c'est quelque chose de vrai, et il le fait toujours. Et les jeunes aiment ça parce que une partie de la jeunesse bretonne essaye de se réinvestir dans une agriculture de proximité, et ils redécouvrent les vieilles recettes, c'est-à-dire pratiquer l'agriculture à l'ancienne, c'est-à-dire ne pas avoir recours à trop d'engrais et avoir recours plutôt à des engrais naturels qu'à des engrais chimiques, et laisser jouer l'action du soleil. Tout ça, c'est toujours vrai. Donc il y a un espoir pour la Bretagne d'une survie dans une sorte d'idéal rural et autonome.
Ça, c'est sur le temps presque court de vos 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous en avez 80. On peut aller sur un temps beaucoup plus long, et c'est ce que vous faites en vous racontant ou en vous montrant avec cette conscience de n'être que de passage face à l'éternité du lieu. Certes, la Bretagne a changé, mais nous ne faisons que passer finalement dans un lieu qui semble être et qui est éternel. Hein.
Oui, vous avez raison. Une de mes grandes émotions assez récentes en Bretagne, ça remonte à peut-être 5-6 ans, je suis allé voir un jeune agriculteur qui s'est établi du côté de Guilvinec, mais à l'intérieur des terres, et qui fait de l'agriculture biologique. Et il me dit, on discute, et puis à un moment donné, il me dit, il y a une pierre très étrange par ici, je vais vous la montrer. Et nous marchons à travers la lande, en dehors de sa propriété, et nous tombons sur une sorte de plateforme de granit qui est zébrée de cygnes. Et il me dit, je me demande ce que c'est. Et je regarde ça, et tout à coup, je comprends que c'est un endroit qui date du paléolithique ou du néolithique, sur laquelle les ouvriers de l'époque fabriquaient leurs outils de pierre. ils usaient les pierres sur cette roche qui leur servait en quelque sorte d'enclume pour la réalisation de leurs outils. Et c'est là, c'est encore là, et ça a l'air d'avoir été fait hier. C'est ça qui donne le sentiment de l'éternité, d'un temps qui est beaucoup plus long que le temps d'une vie humaine.
Mmh. À Sainte-Marine, il y a aussi la terre. Hein. C'est un élément qui est très présent dans vos pages, et notamment dans la ferme de Madame Ledour que vous racontez. Il faudrait aussi parler de la chaleur, écrivez-vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, pour parler de cet endroit, de ce lieu qui vous est cher. Mais Sainte-Marine, c'est avant tout l'odeur de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de vos souvenirs de marée basse ?
Oui, c'est assez étrange parce que dans la langue coréenne, la nostalgie, ça se dit l'odeur de l'eau. Et en fait, quand je pense à ces étés bretons, ce qui me revient tout de suite, c'est cette odeur de la mer. L'odeur de la mer, non pas seulement l'odeur de l'iode et du varech, mais l'odeur de la mer qui se retire. Lorsque la mer se retire sur ces plages de rochers noirs, incrustées de coquillages et d'algues, et il y a une odeur très puissante qui se dégage. Et cette odeur-là, pour moi, c'est vraiment l'odeur de la Bretagne, parce que où que vous soyez en Bretagne, vous n'êtes jamais très loin de la mer. Il y a les rias, les fleuves qui remontent à l'intérieur des terres, qui apportent aussi la vague de la marée, qui apportent tout ça. Donc la Bretagne est baignée par cette humidité de la mer. En fait, la Bretagne, c'est le pays de la mer, c'est l'Armor, c'est la réalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'irremplaçable et qui ne peut pas être détruit, même dans les difficultés qu'on connaît du point de vue de l'écologie. Il y a des erreurs qui ont été commises, mais on garde cette sorte d'osmose avec le monde marin qui est, je crois, quelque chose de très fort en Bretagne.
Invité avec nous jusqu'à midi et demi pour parler de sa chanson bretonne, puis de l'enfant et la guerre. C'est le titre des deux contes qui composent son nouveau livre, l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio. France Culture, il est presque midi et quart.
Je n'ai plus de pain, je n'ai plus de vin, je n'ai plus que toi, ma vieille. Je n'ai plus que toi qui cours à ma voix la nuit lorsque je m'éveille. Et ma bouche mord encore et encore le lait que tu me portes, qu'il est doux alors, tandis que tout dort, te boire de la sorte. Je n'ai plus de feu, je n'ai plus de lieu, je n'ai plus que toi, ma vieille. Si les glaces sont nids, l'homme son logis, et la chatte sa corbeille. Quand la bise me mord, encore et encore, dans tes bras tu me couvres, et là je m'endors, bien mieux qu'au dehors. Où le roi dans son Louvre. Je n'ai plus de foi, je n'ai plus de loi, je n'ai plus que toi, ma vieille. Une fleur m'a pris une aile et je suis prisonnière comme une abeille. Je l'aime et je mords encore et encore, la fleur de l'amertume. Elle est jaune d'or, depuis je ne dors, la fièvre me consume.
Chanson pour ma vieille de Guy Béard, reprise par Clara Luciani, extraite d'un album à paraître la semaine prochaine de Béard à Béard. C'est un double album hommage à l'auteur interprète de la chanson L'eau vive, mort il y a 5 ans. Un album pensé par sa fille Emmanuelle Béard. France Culture, 12h15.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
Avec notre invité, l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio, à l'occasion de la parution de chansons bretonnes chez Gallimard. Entendre Emmanuel Macron scander « Nous sommes en guerre » au début du confinement, Jean-Marie Gustave Le Clézio, en mars. Comment ces mots ont-ils résonné en vous, qui êtes né en 1940, qui êtes un enfant de la guerre ?
Oui, je n'aime pas du tout le mot de la guerre. C'est un mot qui me donne des frissons parce que je suis né dans une guerre et donc je crois que c'est la chose la pire qui peut arriver à un enfant, c'est de naître dans une période comme ça. Et je pense que il faut essayer de réagir contre cet esprit-là. Il ne faut pas glorifier la guerre. Il faut montrer que la guerre, montrer à tous et en particulier aux enfants, que c'est une des pires choses qui peut exister dans la société humaine. Et mais c'est pas pour ça que j'ai écrit ce conte-là. J'ai eu envie de, peut-être pas à cause de mon âge, je ne sais pas, mais j'ai envie de faire une plongée dans un monde qui précède celui du langage, qui précède mon acquisition du langage. Parce que j'ai des souvenirs très forts qui sont liés justement à la guerre, souvenirs d'avoir faim, d'avoir froid, d'avoir peur et de ne pas savoir de quoi on a peur, d'être confiné. Je suis né en confinement, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir jouer dehors, ne pas avoir d'amis, vérifier que le papier bleu est bien collé sur les vitres parce qu'il ne faut pas qu'on voit de lumière de l'extérieur. Enfin, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment marqué très fortement.
Il y a une similitude peut-être qu'on peut évoquer entre ce temps du confinement aujourd'hui en 2020 tel que nous l'avons vécu pour cette pandémie et ce confinement que vous avez connu sur la fin de la guerre alors que vous étiez à Nice, la similitude, au début, en tout cas, c'est l'invisibilité de la menace, celle qui vous incite, comme vous l'écrivez, à rester derrière les murs, à rester à l'abri. La guerre à Nice, vous l'écrivez aussi, cela ressemble au début à une guerre d'opérette. Ça, jusqu'à ce qu'une bombe tombe dans le jardin de l'immeuble de votre grand-mère et souffle toutes les vitres du quartier. Là, la guerre a commencé à avoir un son. La guerre a commencé à ressembler à une émotion, la peur. Peur et la faim que vous avez aussi vécu durant ces années-là. Vous écrivez « Un vide au centre de mon corps, tout le temps, à chaque instant, un vide que rien ne peut combler, que rien ne peut rassasier. Une fin du jour, de la nuit, du dehors, du dedans, dans mon lit, dans la cuisine, en dormant, en marchant. » Cette faim qui avait déjà pris corps dans l'un de vos précédents livres, « Ritournelle de la faim ». Comment se vit la guerre à hauteur d'enfant ? En quoi c'est si particulier, cette vision qu'on en a et cette mémoire qu'on en garde, Jean-Marie Gustave Le Clézio ?
Ce qui est particulier, je crois, c'est qu'on a l'impression, enfin j'ai l'impression, que tout le reste de ma vie, je serai tout de même dans la continuation de ce temps-là. Je ne sortirai jamais de la guerre, en réalité. Je reste prisonnier d'une certaine façon de ces interdits et de cette menace sourde et invisible que j'ai ressentie dans mon enfance. Je n'ai pas perdu ça, ça reste là. Et lorsqu'il y a des bruits très violents, je ne sais pas, un feu d'artifice par exemple, ou bien simplement le moteur d'une voiture qui éclate, je tressaille d'une façon qui, je crois, est particulière à ceux qui ont connu ça. C'est resté enfoncé dans mes gènes, dans mon corps. Je ne peux pas oublier l'explosion qui a détruit une partie de l'immeuble de ma grand-mère et détruit l'immeuble voisin, l'a rasé complètement. Je ne peux pas oublier que je suis tombé par terre lorsque l'immeuble a bougé à la suite de cette explosion. Et je ne peux pas oublier ce qui a suivi, le fait qu'on s'est échappé de Nice et qu'on est allé se réfugier dans la montagne pour échapper aux dangers de la guerre. Parce que nous étions des étrangers à Nice, nous étions des Britanniques. Donc sous la menace d'être déporté, il fallait partir. Bon, l'enfant ne savait pas qu'il était un étranger, mais il s'est retrouvé dans cette situation. Et encore aujourd'hui, quand j'apprends que des enfants sont en déplacement, qu'ils quittent leur pays pour échapper au danger de la guerre, je m'identifie à eux. Je ne peux pas ne pas m'identifier à eux. Je sens très profondément ce qu'ils ressentent et je le lis même sur leur visage. C'est assez étrange, mais je lis sur leur visage quelque chose qui, comme un masque, quelque chose qui cache leur âme. Parce que quand on est en état de guerre, il ne faut pas se livrer, il faut montrer un visage hermétique aux autres. Il ne faut pas laisser prise aux autres. Donc, je ressens tout ça. Ce n'est pas parti, c'est toujours là. L'émotion est très forte, toujours.
Il m'arrive souvent de penser aux enfants qui sont sous ces bombes, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, en Palestine, au Liban. Les enfants qui, comme je l'ai été, sont dans la salle de bain de leur grand-mère en train de regarder l'eau emplir la baignoire. Ou qui sont tout simplement chez eux, en train de jouer avec un petit camion, avec une poupée, avec un gobelet en plastique. Ou qui sont dans la cour à regarder leur maman étendre le linge qu'elle vient de laver. Si la bombe canadienne qui a enfoncé mes tympans a causé tous ces dégâts, quels souvenirs vont-ils garder de ces bombes modernes, si lourdes, si efficace, ces bombes conçues pour percer le béton et atteindre l'ennemi jusqu'au troisième sous-sol. Comment peuvent-ils s'en remettre? Vous posez ces questions dans ces pages, dans ces souvenirs d'une enfance dans la guerre, Jean-Marie Le Clézio. Il y a un autre mot bien enfoui dans nos livres d'histoire qui a ressurgi avec la pandémie, c'est celui de la quarantaine. Lors de la sortie de votre livre intitulé ainsi, La quarantaine, il y a 25 ans, inspiré du séjour forcé de votre grand-père maternel sur l'île Platte, au nord de l'île Maurice, vous aviez tenu à souligner que cet enfermement est loin d'appartenir au passé, que la création de camps, de lieux de détention et d'isolement était toujours quelque chose d'actualité partout dans le monde. Il y a des quarantaines en Asie, en Afrique et même actuellement en Europe, rappeliez-vous à ce moment-là. On appelle ça des camps de réfugiés. Pourquoi il serait bon de ne pas oublier aujourd'hui encore, alors que cette quarantaine nous semble si nouvelle à nous, Français confinés, que la quarantaine n'est pas un fait ancien qui appartient au livre d'histoire?
Oui, parce que je crois que il y a un devoir de mémoire, parce que les êtres humains ne vivent que par la mémoire collective. Et si on vient à oublier ce qui s'est passé et si on vient à se détourner de ce qui se passe actuellement, on perd sa dimension humaine. On risque d'être dans un égoïsme hédonique et complètement en dehors de la réalité. Et je crois que c'est vraiment important de le dire et de le redire que les guerres tuent les enfants, que ce n'est pas, les guerres ne sont pas innocentes, elles ne sont jamais innocentes. Les guerres ne sont pas des moments de gloire, ce sont des moments d'horreur et de destruction. Et même les guerres qui sont des guerres de défense, lorsqu'elles tournent à devenir des guerres d'agression, sont des guerres terribles et qu'il faut les condamner. Et je pense que j'ai en partie écrit ce livre en pensant à Hemingway. Il y a une nouvelle de Salinger que j'aime beaucoup qui s'appelle « For Ismay with Love and Squalor, for Ismay with avec turpitude et amour ». Cette nouvelle raconte que Hemingway débarque dans un mess d'officiers et tout le monde est là à attendre le grand écrivain qui a écrit justement sur la guerre, la gloire de la guerre, les moments stupéfiants que vivent les hommes lorsqu'ils font la guerre. Et Salinger, qui est un simple soldat, regarde ça avec consternation parce que lui, il sait que la guerre n'est pas ce moment de gloire, c'est aussi un moment où on a peur de mourir, on a peur de l'inconnu, on est loin de sa famille. Et il écrit cette nouvelle qui est tout à fait admirable. Donc, je crois que implicitement, j'avais envie de répondre à Hemingway, de lui dire non, la guerre, ce n'est pas la gloire. La guerre, c'est aussi la détresse des enfants, les bombes qui tombent sur des innocents, les situations tragiques que vivent les familles, et la faim, et le froid, et la solitude que l'on y ressent.
Vous parlez de la mémoire, l'importance de garder la mémoire de ces faits-là aussi, et vous évoquez dans ce livre les régressions de la mémoire, cette image qui ne va pas avec la dureté extérieure, celle de ce séjour, de ce sentiment de retrouver l'utérus maternel, un monde clos, étroit, chaud, dans ces années où vous étiez dans l'arrière-pays niçois. Vous dites aussi que cette mémoire-là, la vôtre, peut-être parfois vous trompe et vous vous demandez si aujourd'hui aussi, on n'invente pas, notre mémoire ne met pas en place ces régressions pour nous protéger du réel. Je vous propose d'écouter juste la voix d'une grande écrivaine aussi, c'est l'américaine Joyce Carol Oates, dans Paysage perdu, qui est paru il y a 3 ans chez Philippe Ray. Elle questionnait les limites de la mémoire et elle racontait aussi le monde avec ses yeux d'enfant.
Je pense que la littérature, les arts en général, c'est en quelque sorte notre mémoire, sont les dépositaires de nos souvenirs, alors que les romans sont davantage l'histoire, ils parlent du monde. Si vous avez une vision très superficielle du monde avec Twitter ou ce genre de choses, il n'y a aucune profondeur. C'est comme si vous perdiez tous vos souvenirs et que vous ne gardiez qu'une mémoire à très court terme et que tout était nouveau à chaque seconde, que vous ne vous souveniez pas de ce que vous avez fait hier, avant-hier. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous retombez amoureux toutes les semaines. Ça devient extrêmement superficiel. La littérature, c'est la profondeur. Si vous passez un peu de temps à lire Proust, c'est une sacrée expérience. Lire une bande dessinée, ce n'est pas comparable.
Voilà ce que la littérature aussi fait à la mémoire, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Ce livre, pour vous, c'est un retour en enfance, ce sont des souvenirs, ce ne sont pas des mémoires. Pourquoi cet exercice ne vous tente toujours pas ?
Je crois que Joyce Carol Oates a parfaitement raison, et Emily Dickinson a dit la même chose, c'est que nous vivons dans un univers de mots, et la littérature, et en particulier le roman, organise ces mots, il est construit, il donne un sens à ces mots, mais il ne faudrait pas imaginer que ça correspond à la réalité, parce que peut-être là, je ne suis pas d'accord avec Madame Oates, je ne suis pas d'accord que ce soit... qu'on dise que c'est l'histoire. Je pense que ce sont des histoires, c'est pas l'histoire, ce sont des histoires, c'est-à-dire ce goût qu'on a, qu'ont tous les humains, d'entendre la voix raconter quelque chose. Et j'ai parlé de ce sentiment de sécurité même au sein de la guerre, parce que ça m'a été donné par une femme, par ma grand-mère. Ma grand-mère était une conteuse tout à fait étonnante, qui avait une histoire par jour. Elle inventait une histoire par jour dont le héros était un singe auquel elle avait donné un nom créole. C'était mon ami. Ça fait partie des expressions créoles. Et donc, ce singe vivait des situations impossibles, difficiles, tragiques. Il avait faim, il n'avait rien à manger. Il trouvait toujours le moyen de voler quelque chose quelque part, de se débrouiller, de s'en sortir. Et ce bruit du langage, cette façon qu'elle avait de transmuter le réel dangereux et difficile que nous vivions, que les enfants vivaient en guerre, avec ces mots, ça c'était tout à fait étonnant. C'est ça la littérature, c'est ça que j'aime dans la littérature.
Et c'est pour ça que vous écrivez. Écrire, c'est vivre d'autres vies, aviez-vous dit, c'est aussi revivre la sienne. Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, de nous avoir fait partager ces souvenirs à travers Chansons bretonnes, suivies de l'enfance et la guerre, deux contes qui viennent de paraître chez Gallimard. Merci beaucoup à vous, merci.